Je ressentis un malaise extraordinaire. Je ne savais même pas si c'était agréable ou non. Mon corps se figea des pieds à la tête, statue sur un socle de boue. La petite Italienne me contourna à 180 degrés, marchant à travers tout, indifférente au sort de ses souliers raffinés. La vue de ses pieds dans la boue me consternait. Elle se retrouva face à moi. Le bouquet. Elle pleurait. Pourquoi tu ne m'aimes plus? Je ne sais pas si elle possédait la faculté de pleurer sur commande. Quoi qu'il en fût, ses larmes étaient très convaincantes. Elle pleurait avec un air consommé, juste un peu, de sorte que ce ne fût pas inesthétique, et les yeux grands ouverts, de manière à ne pas occulter son regard magnifique et à afficher la lente jeunesse de chaque larme. Elle ne bougeait pas. Elle voulait que j'assiste au spectacle entier. Son visage était d'une immobilité absolue. Elle ne sciait même pas. Comme si elle avait dégagé la scène de tous ses décors et dépouillé l'action de ses péripéties pour mieux mettre en valeur le prodige. Elena qui pleurait. Contradiction dans les termes. Et je ne bougeais pas plus qu'elle et j'avais les yeux dans les siens. C'était comme si nous jouions à la première qui s'y irait. Mais le vrai bras de fer de ce regard se passait bien plus profond. Je sentais que c'était un combat et j'en ignorais l'enjeu. Et je savais qu'elle le connaissait. Qu'elle savait où elle voulait en venir et où elle voulait me mener, et qu'elle savait que je ne le savais pas. Elle se battait bien. Elle se battait comme si elle me connaissait depuis toujours, comme si elle voyait mes points faibles au rayon X. Si elle n'avait pas été si fine guerrière, elle ne m'eût pas adressé ce regard blessé, qui eût fait rire un être sain d'esprit, mais qui torpillait mon pauvre cœur grotesque. Je n'avais lu que deux livres, la Bible et les contes des mille et une nuits. Ces mauvaises lectures m'avaient contaminée d'un sentimentalisme moyen-oriental dont j'avais déjà honte à l'époque. Il faudrait censurer ces bouquins. Là, c'était précisément ma lutte avec l'ange, et j'avais l'impression de m'en tirer aussi bien que Jacob. Je ne sciais pas, et mon regard ne trahissait rien. Je ne sais et je ne saurais jamais si les larmes d'Elena étaient sincères. Si je le savais, je pourrais à présent déterminer si ce qui suivit fut de sa part un coup de maître ou un coup de chance. Peut-être fussent les deux à la fois, c'est-à-dire un risque. Elle baissa les yeux. C'était une défaite beaucoup plus forte que sciée. Elle baissa carrément la tête, comme pour souligner qu'elle avait perdu. Et en vertu des lois de la gravitation universelle, cette inclinaison du visage vida ses réserves lacrymales et je vis deux cascades silencieuses déferler sur ses joues. J'avais donc gagné. Mais il faut croire que cette victoire me fut insupportable. Je me mis à parler. Je dis tout ce qu'il ne fallait pas dire. Elena, j'ai menti. Ça fait des mois que je mens. Deux yeux se redressèrent. Je m'étonnais de leur absence d'étonnement. Ils étaient seulement à l'affût. Il était trop tard. Je t'aime. Je n'ai pas arrêté de t'aimer. Je ne te regardais plus à cause de la consigne, mais je te regardais quand même en cachette parce que je ne peux pas m'empêcher de te regarder, parce que tu es la plus belle et parce que je t'aime. Une peste moins cruelle qu'elle eût déjà dit quelque chose comme « Non, je t'ai plus ». Elena ne disait rien et me regardait avec un intérêt médical. Je me rendais compte. L'erreur, c'est comme l'alcool. On est très vite conscient d'être allé trop loin, mais plutôt que d'avoir la sagesse de s'arrêter pour limiter les dégâts, une sorte de rage, dont l'origine est étrangère à l'ivresse, oblige à continuer. Cette fureur, si bizarre que cela puisse paraître, pourrait s'appeler orgueil. Orgueil de clamer que, envers et contre tout, on avait raison de boire et raison de se tromper. Persister dans l'erreur ou dans l'alcool prend alors une valeur d'argument, de défi à la logique. Si je m'obstine, c'est donc que j'ai raison, quoi que l'on puisse penser. Et je m'obstinerai jusqu'à ce que les éléments me donnent raison. Je deviendrai alcoolique. J'achèterai la carte du parti de mon erreur, en attendant que je roule sous la table ou que l'on se fiche de moi avec le vague espoir agressif d'être la risée du monde entier, persuadé que dans 10 ans, dans 10 siècles, le temps, l'histoire ou la légende finiront par me donner raison. Ce qui n'aura d'ailleurs plus aucun sens puisque le temps cautionne tout, puisque chaque erreur et chaque vice aura son âge d'or, puisque se tromper est toujours une question d'époque. En fait, les gens qui s'obstinent dans leur tort sont des mystiques. car ils savent bien au fond d'eux-mêmes qu'ils investissent à trop long terme, qu'ils seront morts longtemps avant la caution de l'histoire. Mais ils se projettent dans l'histoire, avec une émotion messianique, persuadés qu'on se souviendra d'eux, qu'au siècle d'or, on dira « Machin, pilier de bar, était un précurseur », et qu'à l'apogée de l'idiotie, on leur vouera un culte. Ainsi, en ce mois de mars 1975, je sus aussitôt que je me trompais. Et comme j'avais assez de foi pour être une vraie imbécile, c'est-à-dire pour avoir le sens de l'honneur, je pris le parti de m'enfoncer. Maintenant, je ne ferai plus semblant. Ou peut-être que je recommencerai. Mais alors tu sauras que je fais semblant. Là, j'allais vraiment trop loin. Elena dut trouver qu'à ce degré d'exagération, ce n'était plus drôle. Elle dit avec une indifférence écrasante que confirmait son regard. C'est tout ce que je voulais savoir. Elle tourna les talons et partit à pas lents qui s'enfonçaient à peine dans la boue. J'avais beau déjà être au courant de mon erreur, je ne pus en tolérer les conséquences. En outre, je trouvais qu'on m'envoyait trop vite la note de frais. Je n'avais même pas eu le temps de savourer mes torts. Je sautai à pieds joints dans la gadoue pour poursuivre la belle. « Et toi, Elena, tu m'aimes ?» Elle me regarda, l'air poli et absent, ce qui constituait une réponse éloquente, et continua à marcher. Je le ressentis comme une gifle. Mes joues cuisaient de colère, de désespoir et d'humiliation. Il arrive que l'orgueil fasse perdre le sens de la dignité. Quand s'y ajoute un amour fou et bafoué, cette débâcle peut prendre des proportions terribles. D'un bond dans la boue, je rejoignis ma bien-aimée. « Ah non, c'est trop facile. Si tu veux me faire souffrir, il faut que tu me regardes souffrir. »« Pourquoi, c'est intéressant ?» dit la voix d'Hermine. « Ce n'est pas mon problème, ça. Tu m'as demandé de souffrir, alors tu me regardes souffrir. »« Je t'ai demandé quelque chose ?» fit-elle, neutre comme la Suisse. « C'est le comble. Pourquoi tu parles si fort ? Tu veux que tout le monde t'entende ?»« Oui, je le veux. »« Ah bon ? Oui, je veux que tout le monde sache. »« Que tout le monde sache que tu souffres et qu'il faut te regarder souffrir ?»« Voilà. » Ah. Son indifférence absolue était inversement proportionnelle à l'intérêt croissant des enfants pour notre manège. Un petit cercle se formait autour de nous. « Arrête de marcher, regarde-moi » Elle s'arrêta et me regarda, l'air patient comme on regarde un pauvre qui va faire son numéro. « Je veux que tu saches et je veux qu'il sache. J'aime Elena. Alors je fais ce qu'elle me demande jusqu'au bout, même quand ça ne l'intéresse plus. Quand j'ai eu la syncope, c'est parce qu'Elena m'avait demandé de courir sans arrêt. » Et elle l'a demandé parce qu'elle savait que j'avais de l'asthme et parce qu'elle savait que je lui obéirais. Elle voulait que je me sabote, mais elle ne savait pas que j'irais si loin. Parce que, là, si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour lui obéir. Pour être complètement sabotée. Les plus petits enfants n'avaient pas l'air de comprendre, mais les autres comprenaient. Ceux qui m'aimaient bien me regardaient avec affliction. Elena regarda sa jolie montre. « La récréation est presque finie. » « Je retourne en classe, » dit-elle comme une enfant parfaite. Les spectateurs souriaient. Ils avaient l'air de trouver ça plutôt comique. Par chance, ils n'étaient que 30 ou 35, soit un tiers des élèves. C'eût pu être pire. J'avais quand même réussi un sacré sabotage. Mon délire dura encore une heure environ. Je ressentais une incompréhensible fierté. Ensuite, cet orgueil déclina très vite. À 4 heures, le souvenir du matin ne m'inspirait plus que consternation. Le soir même, j'annonçai à mes parents que je voulais quitter la Chine au plus tôt. « Nous en sommes tous là, » dit mon père. Je faillis répondre « Oui, mais moi j'ai de bonnes raisons pour ça. » J'eus l'heureuse intuition de couper cette réplique. Mon frère et ma sœur n'avaient pas assisté à l'affaire. On se contenta de leur raconter que leur petite sœur s'était donnée en spectacle, ce qui ne les traumatisa pas. Bientôt, mon père apprit son affectation à New York. Je rendis grâce à Christophe Colomb. Il fallut encore attendre jusqu'à l'été. Je vécus ces quelques mois dans l'opprobre. Cette honte était exagérée. Les enfants avaient très vite oublié ma scène. Mais Elena s'en souvenait. Quand son regard croisait le mien, j'y lisais une distance narquoise qui me suppliciait. Une semaine avant notre départ, il fallut cesser la guerre contre les Népalais. Cette fois, les parents n'y furent pour rien. Lors d'un combat, un Népalais sortit de sa poche un poignard. Jusqu'alors, nous nous étions battus avec notre corps, aussi bien le contenant que le contenu. Nous n'avions jamais utilisé des armes. L'apparition de la lame provoqua sur nous un effet comparable aux deux bombes atomiques sur le Japon. Notre général en chef commit l'inconcevable. Il se promena à travers tout le ghetto en brandissant un drapeau blanc. Le Népal accepta la paix. Nous quittions la Chine juste à temps. Passer sans transition de Pékin à New York eut raison de mon équilibre mental. Mes parents perdirent le sens commun. Ils gâtèrent leurs enfants jusqu'à la démesure. J'adorais ça. Je devins odieuse. Au lycée français de New York, 10 petites filles tombèrent folles amoureuses de moi. Je les fis souffrir abominablement. C'était merveilleux. Il y a 2 ans, les hasards de la diplomatie mirent en présence mon père et le père d'Elena lors d'une mondanité tokyoïte. Effusion, échange de souvenirs du bon vieux temps à Pékin. Politesse d'usage. Et vos enfants, cher ami? Au détour d'une lettre distraite de mon père, j'appris qu'Elena était devenue une beauté fatale. Elle étudiait à Rome, où d'innombrables malheureux parlaient de se suicider pour elle, si ce n'était déjà fait. Cette nouvelle me mit d'excellente humeur. Merci à Elena, parce qu'elle m'a tout appris de l'amour. Et merci à Elena, parce qu'elle est restée fidèle à sa légende.